Cécile Bidot pour le journal. Bonsoir Cécile.
Bonsoir. Il n'est pas encore candidat, mais déjà bientôt en meeting. C'est la situation politique incongrue du jour pour Emmanuel Macron. Des fuites du côté de La République En Marche ont dévoilé la date du 5 mars pour cette première réunion publique à Marseille. Pendant ce temps, certains autres candidats à la présidentielle chassent toujours les parrainages. 3 élus locaux sur 4 n'ont pas encore offert leur signature. Et Jean Castex a fâché tout le monde en mettant la pression hier. Explication à suivre. Et c'est aussi le thème du téléphone sonne ce soir, Fabienne.
Et oui, est-ce qu'elle fait à la démocratie avec cette affaire de parrainage? Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation impossible le vendredi 4 mars, donc sans Marine Le Pen, sans Éric Zemmour et sans Jean-Luc Mélenchon? N'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, ça vaut le coup d'en reparler au téléphone sonne au 01 45 24 7000.
Le conflit à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les Ukrainiens se préparent à un conflit d'ampleur. Les réservistes de l'armée sont convoqués. Nous sommes dans le Donbass dans ce journal. Nous allons aussi à Kiev, où le président Zelensky rassemble ses alliés, et à Moscou, voir si la population soutient les choix guerriers de Vladimir Poutine. C'est un témoignage qui éclaire tous ceux qui essaient de comprendre le parcours de jeunes radicalisés sur Internet. Au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, la cour d'assises spéciale a pu entendre aujourd'hui le récit d'un homme qui a basculé dans l'islamisme depuis sa chambre. Sanofi, enfin, le laboratoire français annonce aujourd'hui que son vaccin contre le Covid-19 est prêt, avec un an de retard. Et puis, le monde habituellement feutré du tennis professionnel est-il en train de mal tourner? Le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, a été exclu du tournoi d'Acapulco après s'en être pris violemment à l'arbitre à coups de raquette sur sa chaise.
France Inter.
En langage macroniste, on pourrait dire que c'est une entrée en campagne disruptive. Alors que le chef de l'État n'a toujours pas dit s'il était candidat à sa succession, on connaît déjà la date de son premier meeting. Ce sera dans 10 jours, le 5 mars, à Marseille. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
L'information vous a été confirmée par plusieurs sources à La République En Marche. Et c'est une étape de plus dans une longue, très longue entrée en campagne d'Emmanuel Macron.
Oui, la déclaration de candidature attendue la semaine prochaine n'est en fait que le dernier étage d'une fusée dont les moteur chauffe depuis longtemps. La République En Marche a sorti ses premiers tracts en septembre. Elle en a distribué depuis des millions. Sur les derniers, d'ailleurs, on voit Emmanuel Macron de dos. Tiens, tiens. Les ministres eux-mêmes font les marchés le week-end. Un site internet censé recueillir les préoccupations des Français a été lancé le mois dernier. Des comités de soutien en français à l'étranger. Une 60aine de salariés sur le pont déjà au QG de campagne dans le 8e arrondissement de Paris. Et un président qui profite jusqu'au bout de son piédestal pendant que les troupes trépignent, d'où peut-être ces fuites pour maintenir en effet l'attention. Alors à quoi ressemblera ce premier meeting?
Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron.
Alors ce sera sans doute pas l'ambiance de stade de foot d'avril 2017 avec Christophe Castaner en supporter numéro 1. Emmanuel Macron veut mêler, nous dit-on, l'optimisme du projet et la solennité de la fonction. Trouver le bon ton d'une campagne très courte, seulement 5 dimanches avant celui du premier tour. Le président va y réfléchir jusqu'au tout dernier moment. Pour le reste, tout est prêt, archi prêt.
Simon Le Baron, merci. Les services politiques de France Inter, vous retrouvez ces infos sur notre site internet. Emmanuel Macron, le pas encore candidat, qui a quand même déjà ses 500 signatures, tandis que d'autres, déclarés depuis des semaines, sont encore à la pêche au parrainage à moins de 10 jours de la date limite. C'est le cas de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou encore Christiane Taubira. Le Premier ministre a voulu prendre les choses en main en organisant une réunion sur le sujet demain à Matignon et en pressant les élus de donner leur signature. Question de démocratie, a dit Jean Castex. Aujourd'hui, 3 sur 4 n'ont encore pas signé d'un quelconque parrainage. Initiative très mal prise par les associations de maires. Et la réunion est donc annulée, William Delesseux.
Eh oui, pas question de répondre à l'invitation de Jean Castex. La démarche du Premier ministre, vécue par les élus comme une convocation en règle à Matignon. Une démarche de pression. Plus de participants donc, et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, en tire les conclusions.
Donc si la réunion ne se tient pas sous une forme physique demain matin, évidemment que cet échange aura lieu et que le Premier ministre aura l'occasion d'adresser un courrier au président des associations d'élus sur ce sujet-là.
Et c'est finalement un échange épistolaire proposé par Jean Castex. Plus de réunion, mais une lettre aux associations. Elle doit partir ce soir. Normalement, le but, c'est de maintenir l'idée d'une concertation, explique-toi en Matignon. Où on rappelle quand même que le principe d'une réunion avait été concerté avec le président du Sénat, Gérard Larcher, mais aussi Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui cet après-midi a réagi, l'air de dire « ce n'est pas à l'exécutif de battre ce rappel des parrainages ».
Personne n'a vocation à donner un ordre à un élu
qui a la capacité de donner un parrainage. Et ce n'est pas au gouvernement, à l'exécutif, de dire aux élus « vous devez faire ». Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la verticalité des choses? Et là, on voudrait qu'on en mette une couche, en quelque sorte.
Et en tout cas, Cécile, personne n'a la solution miracle pour encourager ces maires à parrainer. À voir si certains se sont laissés convaincre entre-temps. Le Conseil constitutionnel met à jour les compteurs demain.
Le Parlement valide la nomination de 3 nouveaux membres au Conseil constitutionnel. François Sénère, actuellement au Conseil d'État. Véronique Malbec, ancienne procureure générale de Rennes. Et Jacqueline Gourault, qui n'obtient que 41 voix pour, 31 contre. La candidature de la ministre de la Cohésion des Territoires a été très critiquée du fait de son absence de formation en droit.
L'Europe veut parler d'une seule voix face à la Russie.
Un sommet des 27 dirigeants de l'UE est convoqué en urgence demain soir à Bruxelles. Le président du Conseil européen, Charles Michel, demande aux pays membres de rester unis et déterminés face à ce qu'il appelle les actions agressives de la Fédération de Russie sur l'Ukraine. Vladimir Poutine ne cesse de faire faire les montagnes russes à la diplomatie occidentale. Après un premier discours guerrier, il affirme maintenant que ses troupes n'entreront au Donbass que si les deux régions séparatistes en font la demande. Il semble en tout cas soutenu par son opinion publique. 73% des Russes approuvent la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et de Louhansk. Enquête à prendre avec précaution puisqu'elle émane d'un institut gouvernemental. À Moscou, le correspondant de France Inter a pu constater que la population ne croyait pas vraiment au scénario d'une guerre de grande ampleur. Sylvain Tronchet.
Malgré les tensions, malgré l'accumulation des troupes autour de l'Ukraine, de nombreux Russes ne croient pas à la guerre, à l'image de Kirill, un technicien du bâtiment de 63 ans.
Je n'ai vraiment pas peur, je sais que notre pays est assez fort pour se défendre contre n'importe quelle menace et nous ne menaçons personne.
Dans les études d'opinion, de nombreux Russes disent aussi ne pas avoir de sentiments négatifs par rapport à l'Ukraine. L'annonce des sanctions américaines hier soir a en revanche conforté nombre d'entre eux quand il s'agit de désigner le responsable de la montée des tensions, comme Andrei, un étudiant de 20 ans.
Apparemment, l'objectif des États-Unis, c'est la dégradation de la situation dans notre pays, parce que l'Ukraine n'a aucun intérêt à être notre ennemi.
Si beaucoup de Russes disent ne plus regarder les informations et se désintéresser de la politique internationale, tous observent en revanche la chute du cours du rouble et redoutent une poussée d'inflation, comme Maria.
Le fait que les prix montent, oui, c'est très problématique. J'ai peur de devoir me serrer la ceinture ou de devoir déménager dans une autre ville moins chère que Moscou.
Conscient que la situation économique est la vraie préoccupation des Russes, le gouvernement a déjà annoncé de possibles mesures de blocage des prix pour la fin de cette semaine. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
De l'autre côté de la frontière, au contraire, l'Ukraine se prépare à une potentielle escalade de la violence. Kiev ordonne la mobilisation des réservistes de l'armée et s'apprête à instaurer l'état d'urgence. Valentin Dunat, vous êtes notre envoyé spécial dans le Donbass, où l'armée est déjà sur la défensive.
En effet, la réponse militaire de l'Ukraine était attendue. Elle consiste donc à mobiliser 200 000 réservistes en plus des 250 000 soldats. Ça fait près d'un demi-million d'hommes. Cet après-midi, je me suis rendu dans une ville située à 20 km de Donetsk, en face de la ligne de front. J'ai demandé à un militaire ukrainien s'il fallait bien lire cette annonce comme une réponse à une menace de plus en plus sérieuse.
Oui, c'est correct, parce que c'est pas pour se balader que les chars et les blindés qui entrent depuis la Russie dans les régions de la DNR, ils viennent pas faire un tour, donc c'est pas pour rien quand même la mobilisation.
Alors ça c'est le point de vue militaire, point de vue d'ailleurs partagé par de nombreux Ukrainiens qui veulent se défendre. Mais aujourd'hui dans cette ville, juste en face des séparatistes, j'ai aussi rencontré des habitants qui de leur côté pensent que ce pas de plus vers la confrontation est une mauvaise nouvelle. Elle signifie la guerre, encore et toujours la guerre. Et il y a des Ukrainiens, des habitants dans cette ville où de nombreux immeubles sont éventrés et qui espèrent toujours que malgré toutes ces informations pessimistes, la voie de la paix pourra être trouvée.
Valentin Dunat à Slaviansk avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. Le président ukrainien demande aujourd'hui à l'Occident de garantir sa sécurité. Volodymyr Zelensky, l'ancien comédien devenu chef d'État, doit aujourd'hui endosser un costume de chef de guerre sans doute trop grand pour lui. Il recevait aujourd'hui les présidents de deux de ses principaux alliés, la Pologne et la Lituanie, à Kiev, Eric Biegala.
Autant les États-Unis font figure d'alliés de poids pour l'Ukraine, autant Lituanie et Pologne sont ses voisins immédiats. Des voisins qui partagent la même défiance, voire les mêmes craintes vis-à-vis de la Russie. À l'occasion de l'allocution commune aux trois présidents, tout à l'heure, Volodymyr Zelensky a remercié Américains et Européens pour les 30 sanctions visant Moscou et annoncé hier soir. Et il a tenu aussi à rappeler que c'est bien l'Ukraine qui se trouve aujourd'hui aux avant-postes de la défense de l'Europe.
Nous espérons que ces sanctions pourront arrêter le projet armé de la Russie qui vise aujourd'hui l'Ukraine mais aussi toute l'Europe. Nous nous sommes entretenus précisément des conséquences de ce projet pour la sécurité régionale et celle de l'Europe, puisqu'aussi bien l'avenir de la sécurité européenne se joue aujourd'hui chez nous, dans notre maison. Elle se décide aujourd'hui en Ukraine.
Le président ukrainien a aussi et surtout remercié polonais et lituaniens pour leur aide militaire. La petite Lituanie est même le premier pays à avoir offert aux Ukrainiens des missiles antiaériens légers Stinger, une arme que l'Ukraine réclamait à grands cris depuis des mois. Kiev, Éric Biégala, France Inter.
Et c'est peut-être aussi le début d'une autre guerre. Plusieurs sites internet d'institutions publiques ukrainiennes, notamment celui du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, auraient été inaccessibles pendant plusieurs heures hier. Les autorités affirment avoir détecté des signes de potentiel piratage informatique. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dossier ukrainien. En Centrafrique, les Nations Unies haussent le ton, demandent la libération de 4 militaires de l'armée française arrêtés lundi à Bangui. Ces membres de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix dans le pays, sont accusés d'avoir voulu assassiner le président centrafricain. Ils ont été interpellés à l'aéroport de Bangui au moment où le chef de l'État devait y atterrir. Manipulation grossière, selon la France et les Nations Unies. Depuis Bangui, les explications de Carole Valade.
À Bangui, le procureur de la République annonçait hier soir l'ouverture d'une enquête, affirmant que les quatre militaires, équipés d'un lourd arsenal, se trouvaient à bord d'un véhicule suspect, suivi par les services de renseignement depuis plusieurs semaines. Le porte-parole de l'ONU en Centrafrique, Vladimir Monteiro.
Ce sont des personnels qui ont été recrutés de manière transparente pour renforcer un dispositif sécuritaire. Ça fait quelque temps qu'ils font ce travail. Il n'y a jamais eu de problème.
Quant aux accusations de tentative d'assassinat du président qui ont inondé les réseaux sociaux africains, c'est de la désinformation, dit le porte-parole.
La MINUSCA condamne de nouveau la tentative d'instrumentalisation et de manipulation de l'opinion publique et rejette catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État.
Les quatre militaires sont détenus sans que l'on sache précisément de quoi ils sont accusés. Les autorités centrafricaines se refusent toujours à commenter l'affaire. Bangui, Carole Valade pour France Inter.
Au huitième jour du procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray, un coin du voile s'est levé sur le parcours d'une radicalisation.
Les deux hommes qui ont tué le père Hamel dans son église en 2016 ont été abattus après l'attaque. Trois membres de leur entourage comparaissent devant la cour d'assises spéciale à Paris. Tous, assaillants comme accusés, ont noué des contacts sur les réseaux sociaux. En direct du Palais de Justice, nous retrouvons Ariane Grissel. Bonsoir.
Bonsoir.
Et cet après-midi, un témoignage est venu éclairer la cour sur la façon dont certains jeunes se radicalisent seuls devant leur écran.
Oui, ce témoin faisait partie d'un même groupe Facebook prenant le djihad que l'accusé Jean-Philippe Steven Jean-Louis. Il l'a rencontré deux, trois fois, a depuis été condamné à de la prison ferme, soupçonné d'avoir envisagé un attentat et est libre depuis quelques mois. À la barre, le jeune homme raconte sa famille d'origine marocaine, pas pratiquante. « Je ne suis pas allé à la mosquée, je me suis converti, seul dans ma chambre. Avant ça, il y a eu l'échec scolaire, j'ai jamais eu d'amis, j'ai eu un ordinateur dans les mains très tôt, je n'avais qu'internet pour répondre à mes questions. » Puis vient 2014, le groupe était islamique proclame son califat. Le témoin s'y intéresse. J'ai commencé à basculer. Il cumule les groupes de discussion, lit les appels à la vengeance pour les frappes en Syrie, regarde des vidéos, beaucoup de scènes choquantes, ça jouait sur la culpabilité. L'avocate générale interroge, comment se désengage-t-on de tout ça en rencontrant des personnes différentes? Autre question, ça fait quoi d'être à nouveau aujourd'hui devant la justice? Quand on est reconvoqué des années après, on se dit qu'on n'est jamais entièrement libre et aussi que c'est important pour les victimes.
Le verdict sera rendu le 9 mars. Merci Ariane Grissel. La course est perdue depuis longtemps, mais ça y est, Sanofi annonce avoir obtenu des résultats positifs pour son vaccin anti-Covid. Le laboratoire pharmaceutique français a un an de retard sur le calendrier qu'il avait annoncé initialement. Il demande maintenant les autorisations de mise sur le marché en Europe et aux États-Unis de son vaccin qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager. Solène Lehen.
Pour le moment, ce n'est qu'un communiqué du laboratoire. Il faudra que les autorités de santé européennes, notamment, analysent toutes les données de Sanofi dans le détail. Après l'avoir testé sur près de 11 000 volontaires, le laboratoire français annonce que son vaccin contre le Covid-19 a été bien toléré et qu'il protège à 100% contre les formes sévères et les hospitalisations. Mais ce qui intéresse surtout les Européens aujourd'hui, plus d'un an après le début de la vaccination et alors que 80% des Français sont déjà vaccinés, ce sont les résultats en dose de rappel. Là, le communiqué parle d'une multiplication entre 18 et 30 fois des anticorps et quel que soit le vaccin utilisé lors du schéma initial, de très bons résultats, dit-on chez Sanofi. Ce vaccin est basé sur la technique de la protéine recombinante, technique déjà utilisée par le passé. Sanofi annonce qu'il va faire dans la foulée une demande de mise sur le marché de son vaccin auprès des autorités de santé américaines et européennes.
Concernant l'autre vaccin nouvellement mis sur le marché, celui de Novavax, ce n'est finalement pas cette semaine que les premières doses seront livrées. L'outre-mer, qui était prioritaire, a appris qu'elle n'arriverait pas avant la mi-mars. L'annonce sera faite officiellement ce soir. La durée légale de l'interruption volontaire de grossesse en France passe de 12 à 14 semaines. La proposition de loi a été définitivement adoptée cet après-midi après un ultime vote des députés. C'est une mesure qui avait été mise en place pour soutenir le secteur de la restauration après le premier confinement. Le doublement du plafond des tickets resto est prolongé jusque fin juin. Vous pourrez donc continuer de régler 38 euros par jour avec ces fameux titres restaurants. On ne peut pas s'empêcher de penser aux mythiques colères de John McEnroe dans les années 80. Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev vient d'être exclu du tournoi d'Acapulco. Hier, le numéro 3 mondial a été battu en double alors qu'il venait de disputer le deuxième tour en simple. Et il a complètement dépassé les bornes, frappant violemment la chaise de l'arbitre avec sa raquette. Emma Sarango.
Après la traditionnelle poignée de main à l'adversaire, Alexander Zverev longe le filet, passe devant l'arbitre. Trois premiers coups sur la chaise, l'Allemand se rassoit sous les huées, puis se relève, insulte et encore un coup de raquette sous le pied de l'arbitre qui descend de sa chaise. Une scène très rare qui se déroule, et c'est important, alors que Zverev a terminé son premier tour de simple à 4h54 le matin même, le match désormais le plus tardif de l'histoire du tennis, d'où une fatigue physique et nerveuse. À cela s'ajoute le contexte sanitaire, des tests quotidiens encore pour les joueurs. Mais il n'y a pas que ça. Medvedev, Tsitsipas, Thiem, les autres successeurs désignés du Big Three, Nadal, Federer, Djokovic, ont eux aussi montré à leur manière des signes de grande nervosité ces derniers mois. Pour Julien Beneteau, capitaine de la Fed Cup et ancien joueur, il n'y a pas de hasard.
La génération d'avant n'a jamais montré ça. Peut-être que ces jeunes, ils sentent qu'ils peuvent prendre entre guillemets la place. Peut-être qu'inconsciemment, ça leur rajoute un peu de pression. Il y a peut-être beaucoup de raisons qu'ils peuvent expliquer, mais effectivement, il y a des choses qu'on ne voyait pas.
Alexander Zverev, qui dit vouloir réfléchir sur ses actes ces prochains jours, risque, outre cette exclusion, une sanction encore plus lourde par l'ATP.
La chaîne de télévision C8 vient d'être épinglée par l'ARCOM, nouveau nom du CSA, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui estime que plusieurs séquences de l'émission « Touche pas à mon poste » s'apparentent à de la publicité clandestine. Sur le plateau de Cyril Hanouna, on a vu le rappeur Booba en homme sandwich, la caméra montrant avec insistance les marques de ses vêtements, de ses chaussures et de sa casquette. Un petit rappel aux amoureux de littérature pour terminer. C'est la dernière semaine pour faire acte de candidature et devenir juré du Livre Inter, présidé cette année par Delphine de Vigan. Vous avez jusqu'à lundi prochain pour nous envoyer un mail sur franceinter.fr ou nous écrire 116 avenue du Président Kennedy à Paris dans le 16e.
Merci beaucoup. On salue Eva Béton au passage qui s'occupe toujours de tout ça. Merci beaucoup. Cécile Bidot, on se retrouve demain. Affûtez vos téléphones dans un tout petit instant. C'est le téléphone sonne. On va se demander s'il y a le feu à la démocratie avec les parrainages manquants de certains candidats. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Jean-Pierre Hameau, le vent va se renforcer demain dans le nord.
Oui Fabienne, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, un touchant en matinée les régions proches des côtes de la Manche. Le vent va d'abord souffler jusqu'à 80 km/h. Il va se renforcer l'après-midi, en particulier vers les Hauts-de-France. Prévoyez 80 km/h dans les terres, mais 90 à voire 100 km/h sur le littoral de la Somme et du Nord-Pas-de-Calais. Et puis côté ciel, de faibles pluies matinales vont intéresser les régions allant de la Bretagne aux frontières belges. Elles vont gagner l'après-midi la région Poitou, Charente, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et les Ardennes. Les éclaircies vont remplacer la pluie entre la Bretagne et la côte d'Opale en passant par la Normandie. À noter les entrées maritimes autour du golfe du Lion en matinée, gagnant les Bouches-du-Rhône puis le Var l'après-midi. Puis côté température, les maximales évolueront entre 9 et 17 degrés. Prévoyez 9 à Cherbourg, 10 à Lille et Brest, 13 dans la capitale comme à Limoges et Biarritz, 15 à Lyon et Bordeaux, 16 à Marseille, 17 à Ajaccio. Et puis bonne nouvelle, avec une fin de semaine en demi-teinte, mais surtout, le soleil reviendra en force pour votre week-end.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Jean-Pierre Hameau de Météo France.